What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena. Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils.
Cinéphiles, peintres fous, jeunes et vieux d'Ardèche et d'autres galaxies, bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, nous sommes en délicieuse compagnie avec Cathy.
Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour.
Olivier.
Bonjour à tout le monde.
Mathieu.
Et salut.
Et derrière la vitre et à la régie, Sylvain.
Bien le bonjour.
Bonjour. Nous parlerons des films Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Okuzai de Hajime Hashimoto, Sur l'Adamant de Nicolas Philibert et du Jeune Imam de Kim Chapiron. Et puis aussi, on aura en avant-première quelques films qui passeront aux Rencontres Nationales Art et Essai qui se tiendront à Cannes, puisque Cathy est dans les coulisses.
Oui.
Eh bien, on commence tout de suite.
Doug, là, regarde.
Oh, j'ai pas regardé. Hein.
Ah, si. En position, s'il vous plaît, monsieur.
J'ai pas regardé.
Recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge, non. Tiens, les gars.
Nérales et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en sixième ensemble, après, on s'est plus lâché.
Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Doc, donc j'ai et des problèmes et pas de vie.
Des problèmes et pas de vie. Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Premier film avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard. Coup de cœur du comité 15-25 de l'Association française des cinémas Art et Essai. Tu nous en parleras peut-être, Cathy, justement, de ça, puisque tu es responsable de ce comité. Alors, ce film, vous êtes nombreux à l'avoir vu. Didier, Cathy, Mathieu, qui veut nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en pensent.
Bon, déjà, on a beaucoup aimé tous les trois, donc ouais, ça c'est déjà bien. Mais
déjà, on va gagner du temps.
Il n'y aura peut-être pas trop de débat, quoi.
Mais qui commence? Mais vas-y, Mathieu.
Ben,
toi,
en fait, il y a beaucoup de choses à dire, parce que ce film, il est... Bon, en fait, juste pour introduire l'histoire, c'est une histoire d'amitié. C'est Doug et Miralles qui sont amis d'enfance. Et ils passent la majorité de leur temps à glander dans les rues, glander devant la PlayStation. Mais tout ça va être chamboulé. On sent une amitié forte, mais tout ça va être chamboulé par l'arrivée d'une jeune fille, Elsa, dans ce village du sud de la France qui est assez petit. On voit directement une bulle, un microcosme, une micro-société avec les gars du PMU, les petits dealers du coin, les amis qui sont peut-être pas très... on sent que... on comprend pas trop leur situation professionnelle, mais ils sont là, les uns pour les autres. Et c'est ce qui compte. J'ai appris... après avoir vu le film, j'étais un peu, comme d'habitude, assez curieux sur comment a été fait le film. J'ai vu quelques interviews, avec notamment Raphaël Quenard. Et en fait, il y a une grande part d'improvisation dans ce film, de la part voulu bien sûr par le réalisateur, donc une direction d'acteur qui est vraiment au top, et derrière ça il y a une part d'improvisation, et on le comprend parce que c'est un film qui a petit budget, et du coup il va être extrêmement délicat dans sa façon de filmer, dans sa façon de représenter par exemple le silence, la caméra fixe à la fin d'une discussion, tout ça va créer une sorte de malaise, les mots. La caméra parle à la place des personnages par moment, et c'est extrêmement juste, j'ai trouvé ça, surtout qu'on parle d'une histoire d'amitié très forte, et je trouve que le réalisateur, pour son premier film, ne tombe absolument pas dans le piège du cliché, mais surtout de devoir à tout prix approfondir ou de donner des paroles fortes pour faire comprendre qu'il y a une relation très forte, amicale. Non, non, c'est par le silence, par le malaise, par l'incompréhension, par les moments gênants, par le conflit que l'on comprend que l'amitié est très forte entre les deux. Et c'est ce qui est le plus touchant. Comment parler de ce film sans trop en dire ? C'est ça le... Mais voilà, Miralles, on va dire que... Miralles, c'est... on va dire qu'il a le rôle du grand frère et Dog et le petit frère. C'est un peu ça. Et Miralles, c'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un qui est seul dans la vie avec son chien. Il est avec sa mère et il prépare à manger à sa mère, mais sa mère qui se laisse un peu vivre. Et Dog, lui, se fait tout le temps reprendre par Miralles. Il n'y a pas un moment où on se sent bien avec les deux. Dog, donc, dans le, voilà, un peu le petit frère, lui, ne connaît encore rien de la vie et il n'a pas forcément envie d'en connaître plus. Il n'est pas très cultivé et tout le temps, il se fait reprendre. Et donc, cette fille qui est là au milieu crée une sorte de frustration chez Miralles qui, lui, apparemment, n'a pas eu beaucoup de relations amoureuses, voire peut-être pas, voilà. Et on voit ce Dog qui n'est pas cultivé, qui se fait tout le temps reprendre par son grand frère et qui, lui, connaît le bonheur de la relation amoureuse, l'épanouissement. Et tout ça crée un gros chamboulement. Mais je vais laisser la parole aux autres.
Bah ouais, moi je rejoins Mathieu. C'est vrai que le personnage de Miralles est incroyablement interprété par Raphaël Quenard. Alors lui, on l'a vu notamment dans Coupé, hein, ceux qui se souviennent du film d'Azanavicius où il jouait un zombie, enfin, il était zombie, hein, direct, ouais. Je crois. Enfin bon, bref, c'était le zombie, puisque c'était le film. Bon, voilà. Et
récemment, si je peux me permettre, là, dans Je verrai toujours vos visages.
Vos visages, voilà. Il est aussi dedans, effectivement. Je repère son visage dans le film, effectivement. Non, mais là, il a vraiment un rôle incroyable, en fait. Il explose complètement. C'est vraiment un premier rôle par rapport à Anthony Bajon, qu'on a vu dans beaucoup de films, qui est certainement plus connu que lui. Mais effectivement, là, de par son personnage, il est incroyable. Et il a cette verve. En effet, comme tu dis, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui sait parler et qui va petit à petit tomber dans cette espèce de jalousie, en fait, par rapport à ce que va vivre son pote. C'est typiquement...
Juste pour qu'on comprenne bien, Mathieu, tu disais frère, grand frère, petit frère, c'est parce qu'ils s'appellent comme ça. Enfin, pour eux, ils sont le grand frère, le petit frère des autres. Mais c'est...
Ben, à un moment, ils le disent quand même. Ils le disent explicitement. Ils disent, toi, t'es pas mon pote. On s'entend pas, mais t'es comme un frère. C'est pour ça qu'on s'entend pas. Et pour ça que même si tu me haïs, c'est pas grave, parce qu'on est frères. Ils le disent quand même à un moment dans le film.
Mais c'est typiquement le genre de film qui est vraiment à la base sans prétention. On sent bien qu'il n'y a pas d'énormes moyens qui ont été mis. C'est vraiment un premier film, sans forcément de moyens. Mais alors, c'est vrai que tout se passe dans cette relation, dans le lieu aussi dans lequel ils évoluent. C'est un bled voilà, où il ne se passe rien, où franchement, les jeunes s'emmerdent royalement. Et c'est bien aussi de montrer la jeunesse glandée et s'emmerder et pas savoir quoi faire de sa vie. Moi, c'est ça aussi qui m'a parlé, en fait. Et c'est tout l'opposé, effectivement, d'un film où il y a une action à la minute. C'est pas du tout ça. Et ça donne une qualité incroyable au film et une force aussi. Et ces deux personnages sont... trois avec la fille, mais en tout cas, ils sont hyper, hyper intéressants cinématographiquement, en tout cas. Donc ça n'a rien de spectaculaire, mais les silences, la verve de Morales, tout ce qui se passe dans ce film, les relations sont vraiment très justes. Il y a une vraie justesse de ton dans le film.
Didier ?
Oui, moi je suis d'accord avec tout ça. Alors je voudrais revenir sur le titre, parce que c'est quand même un peu curieux, ce chien de la casse.
Oui, tu as raison.
Donc je me suis renseigné un peu. Alors, pour moi, c'est un film de village, comme il y a des films de banlieue. Je vais revenir un peu là-dessus. Et chien de la casse, bah, c'est une expression de la banlieue qui désigne une personne un peu vindicative, qui aime bien prendre un peu le dessus sur les autres, etc. Donc, ce qui s'applique très bien
à Morales. Un chien qui garderait une casse voilà, automobile. Voilà.
Et c'est pas anecdotique, puisque un des protagonistes s'appelle Doug, et le chien de Morales, à qui il apprend des tours parce qu'il a toujours besoin d'être dominant, s'appelle Malabar. Donc, il y a aussi un chien dans cette histoire. Donc, chien de la casse, juste pour expliquer un petit peu le titre. Et pour moi, c'est au-delà, oui, c'est exactement ce que vous dites, mais au-delà de ça, c'est aussi une relation d'amitié qu'on pourrait, dans un premier temps, considérer comme une amitié toxique. Ouais. Puisqu'il y en a un qui est dominant et l'autre qui est dominé. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est sur la culture de Morales. Moi, c'est ce que j'appelle de la fausse culture. Ça veut dire qu'il va connaître un sujet parfaitement, parce qu'il a lu un livre sur ce sujet-là. Mais si tu l'interroges, tu vois, s'il a lu un livre sur la peinture du 18e, il va te raconter plein de choses. Mais sur le cubisme, il connaît rien, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça.
C'est ça, mais vraiment, voilà, c'est exactement... Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est ce qui donne ce côté au personnage, tu vois, ce côté où il essaie de trouver un sens, en fait, à tout ça, avec les moyens qu'il a dans ce milieu où personne ne connaît rien. Alors, il fait un peu office de... Et moi, je connais, je cite...
Cette fille qui arrive de la ville, qui va être entre les deux, lui dit à un moment, elle dit, mais arrête de faire le bonhomme, quoi. Voilà, c'est exactement bien sûr, bien ça. Sûr. Il fait le bonhomme avec ses copains, qui en plus, alors, on n'en rien à cirer, quoi, de la culture et tout ça. Les intéresse absolument
c'est pas.
Leur
truc,
voilà. Mais en fait, pour revenir là-dessus, cette amitié qu'on pourrait croire toxique, en fait, c'est pas si évident que ça, puisque le rapport dominant-dominé, à un moment, va presque s'inverser, quoi. Quand Morales fait un peu la morale à Doug sur sa relation avec cette fille, Doug lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, t'en as jamais connu de fille, casse-toi, quoi. Et quand il y a séparation des deux, bah, celui qui en souffre le plus, c'est Morales, c'est pas Doug, voilà. Donc, c'est une relation très, très compliquée. Et ce que j'ai beaucoup aimé moi aussi dans le film, je vais me dépêcher parce que ça n'a pas beaucoup de temps, mais ça me tient à cœur quand même. La semaine dernière, on a un peu étrié le cinéma français actuel, hein, si vous vous souvenez un peu.
Ouais. Bah, voilà. C'est une comédie.
Voilà. Et là, c'est tout le contraire. Quoi. Dire, on a vraiment quelque chose, je trouve, de très novateur. Et je trouve que au-delà de l'histoire, il y a aussi, et quand je dis que c'est un film de village, c'est ça. Quoi. C'est-à-dire, on voit la vacuité dans le village, c'est-à-dire ces jeunes. Bah, le seul truc à faire dans le village, c'est se retrouver sur le banc de la place de l'église tous les soirs. Quoi. Voilà, et c'est tout, et il n'y a que ça. Et le film, je trouve qu'entre les lignes, interroge également sur la masculinité aujourd'hui, mais justement, là, sans passer par les cases à cocher, homosexualité, travestissement, etc., etc. C'est beaucoup plus fin que ça. Et qu'au bout du compte, ça nous montre des jeunes gens fragiles, vulnérables, qui se cherchent et sous des apparences qui sont des apparences de bonhomme. Quoi, voilà. Donc très très bon film qu'on conseille tous les trois. Je
pense. Oh, bah, oui, bien sûr.
Chien de la casse qui est à voir au navire à Aubenas et au foyer de Rosières. Et Chien de la casse, qui... oui, bah, moi aussi. Et donc, on disait ce film a été sélectionné, c'est l'un des 6 films coup de cœur, c'est ça, du comité
15-25, de... ouais, c'est un comité 15-25. Qui a été mis en place en début d'année, enfin on y a travaillé déjà dans le courant de l'année dernière.
Donc au niveau national.
Et au niveau national avec l'Association française des cinémas d'art et essai, donc c'est un nouveau groupe au sein de cette association pour faciliter en fait les salles dans leur programmation, en tout cas faire des orientations un peu précises sur des sélections de films qui peuvent parler à ces fameux 15-25. Et l'idée, c'est qu'on sélectionne, enfin, on voit pas mal de films tous ensemble. C'est un comité qui est à l'échelle donc, nationale avec pas mal de médiateurs de cinéma dans les salles de cinéma. Et chaque mois, bah, ils vont repérer des films. On va repérer des films. Et il y a tous les mois un film coup de cœur qui va être accompagné spécifiquement soit par une tournée du Réal ou de la Réal, soit des connexions avec des associations particulières par rapport à la thématique ou autre. Enfin voilà, donc c'est une proposition assez forte pour les salles qui veulent orienter un peu leur programmation spécifiquement pour les 15-25.
Super, Chien de la casse.
On continue complètement ailleurs. Ouvrez bien l'oreille, tendez bien l'oreille. Si vous ne parlez pas le nippon, il n'y a des choses que je ne vois que maintenant. C'est la traduction. Okusai.
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 Oui, Okusai.
Okusai.
Ah bah alors, ce film d'une heure et demie est une superbe visite dans certainement un des plus beaux musées d'Extrême-Orient qu'on puisse imaginer. Je pense qu'en rassemblant toutes les collections de tous les musées d'Extrême-Orient de France, guillemets compris, on n'aurait pas la moitié des objets qu'on voit dans ce film, depuis les kimonos jusqu'aux tuniques de toute espèce, les services à saké, les accessoires du peintre, les socs en bois. Tout y est. C'est une pure merveille. Des ombrelles, des parapluies, c'est pas la même chose. Des pigments, des maisons de passe, des prostituées, on a tout. C'est une pure merveille. Mais alors, et c'est là que ça devient intéressant, c'est je regardais le pitch spécial halluciné, spécial partout, là. Japon, 18e siècle. Alors, il faut savoir que Okusai, il a vécu longtemps. 1760, 88, 1760, 1849. Est-il du 18e siècle ? À moitié. Et pas tout à fait à moitié, parce que ça fait 40 ans au 18e et 49 au 19e, et bien tout le film est comme ça, à moitié faux, à moitié vrai, mais un peu plus faux que vrai. C'est-à-dire, tout à coup, Okusai, il y a une femme à laquelle il consacre toute sa vie, alors qu'en vrai, il en a deux. Il n'a qu'une fille qui le suit jusqu'à la fin de ses jours, etc., alors qu'en fait, il a cinq enfants. Tout est à l'avenant. Alors, au début du film, bon, il se trouve que je connais assez bien Okusai. Au début du film, je me dis, tiens, il va falloir que je vérifie, que j'aille voir, que je ne dise pas à mon tour des bêtises aux auditeurs, n'est-ce pas ? Mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup trop. Il faudrait compulser des multiples encyclopédies pour refaire la vérité sur cette question. Donc j'ai laissé tomber, je vais prendre un exemple qui se permettra d'aller plus vite. Au 19e siècle, le Japon s'ouvre sur l'Occident et il y a une allusion qui est faite à ça par un éditeur dans le film qui déploie une carte du monde et qui dit voilà, notre île, le Japon, c'est ce grain de riz là, etc. Pour les dans le monde à l'époque, le Japon c'est pas un grain de riz, hein, c'est un enjeu monumental, c'est une porte sur l'Orient, enfin c'est quelque chose de colossal. Et un détail là-dedans, le Japon s'ouvre à la chimie allemande. Alors, c'est pas Ig Farben, mais ça pourrait. Avec le bleu de Prusse, voilà. Et alors, on voit Okusai. On a un travelling avant sur Okusai qui est sur une terrasse, enfin, à l'intérieur d'une maison. Puis, il est devant un bol qui contient des pigments. On devine rapidement que c'est le bleu de Prusse. Il sort avec son bol. Il le tend vers le ciel qui est bleu. Vous avez remarqué la finesse de l'allusion ? Oh. Et il se met à pleuvoir, donc le ciel est gris. Mais heureusement, il y a le bleu de Prusse. C'est-à-dire, le pigment est mouillé. Et alors, il en sort du bol des quantités incroyables. Il est tout éclaboussé, il devient tout bleu au Okusai. Une merveille. Alors, il faut quand même savoir que le bleu de Prusse, ça a été important dans la mesure où ça a permis de mettre beaucoup de bleu dans les estampes qui, étant imprimées en très très grand nombre, ne pouvait pas être imprimé avec beaucoup de bleu, puisque le bleu, avant, c'était l'indigo, qui coûte une blinde. Alors, évidemment, le bleu de Prusse, ça a été un vrai apport au bleu dans l'imagerie japonaise de l'époque, mais c'est pas le Graal, ça n'a rien à voir. Et donc, tout le film est comme ça, à moitié faux, à moitié vrai, mais plutôt faux. À la fin, Okusai, il peint... Ah, je vais pas dire la fin, peut-être... Non, on ne dira pas la fin.
Arrête-toi, la moitié de ta chronique, voilà. Je te propose.
Non, mais on croirait que c'est un pote Andy Warhol, et ça choque quand même à quelqu'un qui aime beaucoup Okusai. Ça donne très envie de retourner voir du Okusai.
D'accord, donc tu le conseilles à moitié et plutôt à moitié pas.
C'est ça. C'est bien résumé.
Mais donc cette semaine, au navire à Aubena, au Vivarais de Priva, jeudi prochain à Ruyons. Ou pas, enfin je m'arrête là. Allez, on prend le large pour autre chose.
Ce met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça.
On a des têtes un peu cassées peut-être, je sais pas.
Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait, la folie comme une autre expérience du monde, proposée par Nicolas Philibert dans son dernier documentaire sur l'Adamant.
Oui, le prix à Berlin,
l'ours
c'est ça
d'or de c'est Berlin, Berlin. Oui, cette année. Ce qui est relativement rare pour un documentaire, d'ailleurs.
Ouais. Tu l'as vu,
oui,
Didier ?
Oui, je l'ai vu et j'ai couru le voir parce que moi, je considère que Nicolas Philibert est le plus grand documentariste français vivant, à part Montaigne non plus au début du cinéma, mais, et que tous ses films sont un peu bâtis sur le même modèle, c'est-à-dire c'est un regard humaniste d'un cinéaste qui pose sa caméra et qui intervient très très peu. Et le fait de poser sa caméra et qui prend le temps, c'est-à-dire qu'il est là pendant des semaines et des mois, et donc on finit par s'habituer à sa présence. Et il y a cet effet un peu particulier qui est très présent, je trouve, dans, encore plus sur ce film, dans ce film sur l'Adamante, c'est que on a, par ce procédé, on a l'impression que les personnages nous parlent directement. Et donc ne parle pas ni à la caméra, ni au réalisateur, ni à un intervieweur, mais nous parle à nous spectateurs. Alors, pour revenir sur le film, l'Adamante, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de jour pour adultes souffrant de troubles psychiatriques, de troubles mentaux, avec une particularité quand même très importante. C'est un bâtiment, pas une péniche, mais un bâtiment flottant sur la Seine, en plein cœur de Paris. Donc, ce qui est relativement rare et particulier.
C'est ce qu'on entendait au début.
C'est ce qu'on entendait au début. Et donc, viennent ici des personnes, des hommes, des femmes de tout âge, de toute catégorie, qui ont des problèmes mentaux et qui viennent participer à des ateliers. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Nicolas Philibert est venu une première fois sur l'Adamante, c'est-à-dire qu'il a été invité à un atelier débat sur le documentaire et sur son travail. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a tous des idées reçues, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui sont vraiment barrés dans tous les sens et tout, ben très très honnêtement, il y a des gens qu'on rencontre ici, si on sait pas qu'on est dans un film sur la folie, ben on s'en rend pas compte, quoi. Il y a des gens qui ont énormément de talent, qui savent écrire, qui savent chanter, qui savent s'exprimer. Et tout ça fait une espèce de petite communauté où on rencontre des poètes, des musiciens, des littéraires, des bricoleurs, qui ont tous évidemment un point en commun, c'est d'avoir été fortement cabossés par la vie et par leur maladie. Mais qui sont là et qui prennent leur place et qui ont leur place, c'est ce qui est très très rare. Et on a aussi évidemment la parole des soignants, qui est une équipe quand même assez aussi marginale, particulière par rapport à ce qu'on peut imaginer et connaître, et qui exprime quand même à plusieurs reprises une crainte, c'est-à-dire que une expérience comme ça coûte cher, donc est-ce que dans un futur proche il y aura une pérennité ou pas, donc voilà. Et c'est le juste pour préciser, c'est le second film que Nicolas Philibert réalise sur la psychiatrie. En 95 il avait réalisé La moindre des choses, donc dans une clinique du Loir-et-Cher où patients et soignants chaque année montent une pièce de théâtre qui est ouverte au public.
Et ce film-ci est apparemment le premier d'un triptyque.
Oui, c'est ça.
Consacré.
C'est ça. Il y aura un triptyque sur la psychiatrie. Alors, pour terminer, si j'aurais 30 secondes, un extrait d'un interview de Nicolas Philibert, je trouve qu'il résume absolument comment il aborde son travail. Il dit: faire un documentaire, c'est se frotter à l'accidentel, à tout ce qui échappe aux prévisions, à la dramaturgie. Les plus belles scènes sont souvent celles qui naissent par surprise, sans préméditation. Parfois, il suffit d'être là, attentif à ce qui nous entoure, d'y croire assez pour que cet endroit devienne un lieu, ces hommes et ces femmes, les personnages d'un récit, ces actions à première vue anodines, d'authentiques histoires. Et je trouve que ça résume parfaitement le film et tout le travail de Nicolas Philibert.
Au masque à la plume, Eric Neuhoff du Figaro ne savait pas d'où venait le mot adamant, alors je l'aide. Ça vient de adamantin, qui est relatif au diamant, et je pense, donc pour la dureté et la pureté, et je pense que c'est lié au fait qu'en poupe et en proue, le bateau a des volets qui s'inclinent comme les facettes d'un diamant.
Oui, je ne savais pas, mais effectivement, c'est
d'après ce que d'après ce que tu nous dis, on a bien là un diamant qui flotte sur la Seine, apparemment.
Exactement ça.
Un beau diamant. Moi, je me posais simplement la question, j'ai pas vu le film, mais est-ce que ça donne pas une image, justement, romantique, où créativité et folie sont encore une fois mêlées, et où on gomme peut-être la souffrance aussi. Enfin, c'est peut-être pas le propos du film, ou c'est peut-être le propos des autres, deux autres films sur la psychiatrie.
Je pense les gens qui viennent là, effectivement, sont des gens qui viennent tout seuls, qui ont quand même une certaine possibilité d'action dans leur vie. Certains sont en hôpital psychiatrique, mais peuvent sortir, peuvent se déplacer, etc. Donc déjà, on n'est pas dans une folie profonde, on est quand même chez des gens qui peuvent avoir un semblant de vie sociale. Et après, effectivement, l'expérience est telle que les gens se sentent tellement bien ici que forcément, et c'est ce que tout le film démontre, ils vont pouvoir sortir de leur maladie l'espace de quelques instants, contrairement à des gens qui seraient enfermés ou pas libres de dire, de faire et de rencontrer qui ils souhaitent.
Folie et créativité et création, ça me fait penser à un livre d'un psychiatre, Raphaël Gaillard, Un coup de hache dans la tête, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où il mettait justement en lien folie et création, et ce lien est souvent fait, mais là il découvre un lien de parenté, c'est-à-dire que notre ADN nous rend vulnérables aux troubles psychiques en même temps qu'il nous permet de créer. Et c'est pas et je trouve ça assez fascinant, ça permet de créer d'autres mondes.
Mmh. Alors, on pourrait avoir un grand débat là-dessus, mais tous les grands artistes sont des grands malades, hein. Prenez
Beethoven, romantisme dont tu parlais tout à l'heure.
Non, mais justement, c'est au-delà même du romantisme. Il y a énormément de souffrance. Enfin bon, c'est. Donc c'est sur l'adamante. Donc cette semaine à Privas. La semaine prochaine au navire et bientôt au regain du Teil. Dernier film.
Pourquoi on t'a envoyé au village?
C'est quoi la très grosse bêtise que t'as faite?
J'ai honte devant la famille.
Il est passé où l'argent?
T'as déjà fait autant d'argent toi?
Moi j'ai été élevé ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui.
Le jeune imam de Kim Chapiron avec Abdullah Sissoko, Hadi Bert et Isaka Sawadago, entre autres.
Oui, alors pour Okusai, j'attendais beaucoup, j'ai rien eu. Là, j'attendais rien, j'ai tout eu. Ah, c'est complètement différent. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que bon, l'histoire rapidement, celui qui sera le jeune imam est renvoyé au bled par sa mère parce qu'il déconne, mais il déconne assez grave quand même.
Et nous avons des travaux juste à côté du studio.
Voilà. Et il revient pas tout à fait guéri, j'ai l'impression. On ne sait pas, justement. Un imam, d'ailleurs, lui dit, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intention dans laquelle on fait les choses. Et on ne sait pas quelle intention l'anime, mais il va droit dans le mur. Et écoutez, je ne sais pas. Donc ici, il faut que je sois bref. Je vais m'arrêter tout de suite. Allez voir ce film, c'est une très très belle aventure, bien ficelée, très bien jouée, et qui amène à se poser énormément de questions sur ce qui se passe effectivement au plus profond de nous.
Je te malmène, oui, effectivement, on a très peu de temps, mais tu recommandes Le jeune imam de Kim Chapiron, cette semaine au navire, et la semaine prochaine à Rosières. Un mot, Cathy, justement, sur ces rencontres nationales.
En un mot, ça va être dur.
AESC qui se tiendront à Cannes un peu plus.
Oui, alors les rencontres nationales AESC, elles ont lieu du 14 au 16 mai à Cannes. Bon, historiquement, voilà, ça précède le festival. Ce sont des rencontres qui concernent plus de 1300 salles adhérentes à l'Association française des cinémas d'AESC, où on monte des films et où il y a également l'Assemblée générale et puis des rencontres avec les pouvoirs publics et des grandes questions soulevées au niveau de l'exploitation. Moi, je voulais vous parler juste de trois films, si je peux me permettre, parce que c'est juste trois.
C'est vrai, il y en avait plus de 30, alors 3.
Ouais, c'est ça. Non, mais juste pour vous donner envie.
Donc, tu es allé voir.
Oui, je fais partie du comité de sélection des films qui sont présentés aux adhérents du 14 au 16. Donc, on a un petit comité de sélection qui s'est réuni à Paris la semaine dernière. Et je voulais juste aborder 3 films, parce que ce sont des films qui sont sur 3 sections en dehors de la compétition officielle. Le premier, il sera présenté à l'ACID. En fait, ça, c'est une structure qui est vraiment sur l'art et essai un petit peu pointu, avec des sélections faites par des cinéastes. C'est Linda veut du poulet. C'est un film d'animation qui est réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. C'est lui qui avait fait La jeune fille sans main. Donc il y avait beaucoup d'attentes sur le film. Et c'est une petite merveille cinématographique avec une petite fille qui souhaite que sa mère lui refasse la recette du poulet au poivron de son papa. Mais c'est jour de grève, donc c'est dur. Ensuite, il y a le Syndrome des amours passés, qui est un film de Anne Siro et Raphaël Balboni, qui nous avait... fait rire et ému avec Une vie démente.
Ah, génial.
Qui donc on sévit une deuxième fois avec... le pitch, il est très drôle. C'est-à-dire que les Brimi et Sandra, donc un couple qui s'aime très fort, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ils sont victimes et atteints du syndrome des amours passés. Et là, leur professeur qui les suit pour qu'ils aient des enfants leur dit « En fait, c'est simple, il va falloir que vous recouchiez une fois avec tous vos amours précédents, parce que en fait vous avez un blocage qui fait qu'il faut revenir en arrière. » Sauf que elle en a 25 et lui il en a 3, quoi, en gros. Bon, bref, voilà. Et le dernier film, c'est Le procès Goldman. C'est le film qui fera l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs de Cédric Kahn, et qui revient sur le procès de Pierre Goldman en 1975. Quand il est accusé et qu'il crie son innocence, il a fait plusieurs braquages, donc ça, il est clair là-dessus. C'est un militant d'extrême gauche, hein, pour le représenter vite fait. Et là, c'est un procès lors duquel il est accusé d'avoir assassiné 2 pharmaciennes lors d'un braquage, et il crie son innocence. C'est une grande gueule. Est-ce que le procès va lui donner raison ou tort? C'est ce que vous saurez quand vous verrez le film.
Qu'on verra probablement.
Les sorties, Linda du Feu du Poulet, je sais que ça sort en octobre, mais les 2 autres, je n'ai pas les sorties en tête, mais bon, c'est 3 films que j'ai beaucoup appréciés.
Eh bien, merci beaucoup. Un avant-goût avant-première du festival. Festival de Cannes, ouais. Ce soir, à Lantière, à 20h, il y a Sur les chemins noirs, grâce à la Maison de l'Image. Il y a aussi, un mot là-dessus, Des bobines et des hommes de Charlotte Pouche, à la médiathèque de Montpezat, ce soir à 18h30.
Chouette.
Oui, c'est un... Voilà,
sur une usine de filature.
Exactement, merci.
Ah, donc, bien,
ouais. Très bien, donc ce soir à 18h à la médiathèque de Montpezat. Et demain soir, si je vous dis O-D-I-L, qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire?
Rien.
Ah si, Odile. Simon Cara.
La cité de la peur.
Ah, ça voilà.
Odile Doré.
Ah oui.
Samedi soir, à 20h, au Regain du Teil. Voilà,
c'est des anciennes amours, ça aussi.
Film culte à voir sur grand écran.
Un peu nul.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes, tous. Et merci pour ta patience, Sylvain. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Cinémascope. D'ici là, bon film !